Donc, Amalek surgit et veut détruire les Judéens qui se préparent à revenir au pays. Et de notre temps, dès que le mouvement sioniste est apparu le nazisme. Le nazisme est postérieur au sionisme. Est-ce que c'est clair ça ? Le temps du retour est arrivé, les Juifs n'ont pas bougé, ont apparu les nazis. Vous allez me dire, mais quel rapport ? Ben, lisez l'histoire. De la même manière qu'au temps de Mardochée et la reine Esther, Aman a pris le pouvoir 3 ans après que Cyrus ait décrété que les Judéens pouvaient revenir à Jérusalem, mais ils n'ont pas bougé. Alors, il y a une bande de voyous, de sionistes de l'époque qui sont arrivés dans les kibboutzim, mais en fait, les Juifs n'ont pas bougé, Aman a surgi. Relisez, prenez les dates. Et alors, voilà pour ce 7e personnage qui est Amalek. Il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui, on se heurte à une coalition d'intérêts internationale derrière les Palestiniens, avec la même argumentation. Détruire Israël et le remplacer. Et déjà, les Palestiniens utilisent le langage de la diaspora juive. La diaspora palestinienne, l'année prochaine à Jérusalem, on commence par le Golan, et puis on va arriver tout de suite après. Rassurez-vous, le Golan, Shumdavar, mais enfin, Jérusalem, c'est ça qu'ils veulent. Et vous voyez qu'il s'agit de la même histoire. Alors, une fois que vous l'avez compris, oubliez les détails, mais étudiez, de telle sorte de savoir qui nous sommes, qui vous êtes, et à quoi on est tous. Attendez, allez, oui, est-ce que c'est clair, ces choses-là ? Okay ? Bon. Mais tout ça, ce n'est qu'un flash d'introduction à l'étude que je veux vous faire en détail. Alors, si vous avez des questions d'ordre général, laissez-les de côté. Si vous avez des questions de connaissance, posez-les-moi. Sinon, Haval al-Azman. Attendez, il y a eu trois mêmes qui se sont levés dans l'ordre. La première, c'était par là-bas. Et ok. Après, c'était toi. Qu'est-ce que tu voulais dire ?
Quand on a parlé d'Amalek tout à l'heure, il y a une idée dans la Torah de détruire Amalek. Vous avez dit que...
Alors je regarde, non seulement tu parles fort, mais articule. Non, ça t'entend pas. Tu as entendu parler de l'articulation ? Alors articule.
Il y a une idée dans la Torah de détruire Amalek.
De détruire Timchè...
Il y a Achit Amalek.
Timchè Zecher Amalek. Continue.
Et vous venez de dire que Amalek, il apparaissait chaque fois sous une manière différente.
Mais c'est toujours la même chose.
Mais je veux dire,
tu veux dire,
c'est pas la même famille, c'est pas la même.
Si j'ai compris ta question, je crois que j'ai compris ta question. Est-ce que c'est vraiment ce peuple que la Torah appelle Amalek ?
Voilà, ouais.
Et c'est pourquoi je n'ai pas parlé de ça. J'ai parlé de son identification. Comment s'identifie Amalek ? Il s'identifie par 2 facteurs. Il veut détruire Israël et le remplacer. C'est systématique chez Amalek. Et je vous ai montré d'où ça sort. Il prend les dossiers des antagonistes, les dossiers des rivaux, et il en fait un seul. Ne vous préoccupez pas de questions de ce genre qui ont pour objet de faire un peu du même genre de ce que j'ai appelé les alibis tout à l'heure. Bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qui c'est les Amalécites, peut-être que les Palestiniens, c'est pas Amalek. Ceux qui se sont dit ça dans le ghetto de Varsovie, peut-être que les Allemands, c'est pas Amalek. Regardez dans quel piège ils sont tombés. C'était quand même Amalek. Et ce sont des alibis. Faites bien attention à ça. De la même manière que vous avez énormément de gens dans le monde qui nient que les Juifs, c'est les Hébreux. On pose la question sur votre propre identité. Est-ce que vous êtes Israël ? Je me souviens, il y a une trentaine d'années, je dirigeais la yeshiva sfaradite du collège de la Vieille de Jérusalem. Et je m'étais lié d'amitié avec le mufti de l'église de la mosquée d'à côté. Chaque fois que je descendais à Mincha au Kotel, lui il remontait de la mosquée à la même heure. Finalement, on a pris le temps ensemble. Et puis, un jour, il était en veine de confidence, il m'a dit « On sait que ce pays, c'est Israël, mais on n'est pas sûr que vous, les Juifs, soyez Israël. » Il m'a dit ça avec une sincérité absolue. Mettez-vous dans la tête, vous ne pouvez pas, mais essayez. D'un musulman pieux qui voit le comportement des juifs touristes au Kotel. C'est ça Israël ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et ces juifs touristes au Kotel qui disent c'est notre pays. Je me rappelle. Alors imaginez la réaction des Arabes du pays. Et alors voilà, c'est le même problème. T'as compris, madame ? Alors, c'est pour ça qu'il faut bien retenir cela. il faut confronter ce que les textes disent, mais à la lettre. C'est pourquoi j'ai dit Timché Zecher Amalek. Hein? Le Zecher Amalek, tu as compris ce que c'est. C'est chaque fois que Amalek réapparaît, quel que soit son avatar. Mais c'est Amalek, Bichlal. Quelqu'un qui te dit ce pays c'est à moi et pas à toi, c'est pas pour rien qu'il dit ça. D'où il sort, c'est clair. Vous savez, c'est pas n'importe quel musulman et c'est pas n'importe quel arabe qui parle comme ça. Voilà. Moi, comme vous savez, je suis né en Algérie et j'ai eu beaucoup de relations avec les arabes algériens, en particulier la famille du mufti de la ville où j'habitais. Et bien, jamais ces arabes-là nous diraient que cette prétention des Palestiniens, que le pays d'Israël, c'est à eux. Eux, c'est des Arabes algériens, et le pays d'Israël, c'est le pays d'Israël. Mais ce qu'ils veulent, c'est la souveraineté religieuse sur Jérusalem parce qu'ils ont une mosquée. D'après leur religion, là où il y a une mosquée, c'est un pays musulman. Vraiment, il n'y a pas à discuter avec eux. Eux au moins, etc.
La France, alors, c'est...
Mais bien sûr, je n'ai pas entendu parler de Poitiers. Hein? La dernière fois, ils sont arrivés à la moitié. Maintenant, ils vont prendre l'autre Poitiers. Vous ne savez pas que c'est un musulman croyant. Eux, au moins, ils savent en quoi ils croient. Et avec eux, on ne discute pas. Et alors, c'est pourquoi je veux te dire, il faut s'habituer à ce qu'on appelle, mais oublie le mot, la typologie. Quand quelqu'un comme Hitler écrit un livre pour dire c'est les Juifs ou nous pour Milan, si on n'entend pas que c'est Amalek qui parle, on n'entend rien du tout. Et dans Mein Kampf, Hitler a écrit ce qu'il voulait faire, et il l'a fait, et personne n'a voulu le croire. Okay? Actuellement, les Palestiniens vous disent ce qu'ils veulent faire, et personne ne veut les croire. Et nous avons un gouvernement qui fait semblant d'y croire. Grâce à Dieu, c'est quand même les Juifs qui ont le gouvernement. Mais il fait semblant d'y croire, c'est un piège. Et ce gouvernement n'existe, comme vous le savez, je ne sais pas si vous suivez la politique israélienne, le gouvernement n'existe parce qu'il a un bloc rossem, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire une majorité d'opposition de une voix grâce aux Arabes, et il a une majorité juive grâce au parti chasse. C'est-à-dire, la complicité des orthodoxes anti-sionistes, ce gouvernement se prépare à donner le pays aux Arabes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Hein? C'est clair? Donc, alors avec ça, on ne discute pas. Où est Amalek? Dans certains yeshivot. Parce qu'il y a aussi un Amalek Pnimi. C'est clair? Donc, mais toute cette histoire sera écrite. Et quand vous la lirez, vous direz, mais j'ai vécu ça, mais j'y voyais. Alors on revient au sujet. Vous allez me dire quelle heure il est d'ailleurs, ça va commencer à me mettre. Il faut jamais me laisser faire des introductions, parce qu'on n'arrive jamais au sujet.
Je ne suis pas à comprendre.
S'il n'y avait qu'une seule chose, tu es heureux.
À propos de ce que vous avez dit, on est quand même dans un processus, vous avez parlé d'Amalek qui est au sein, en ce moment, d'Israël.
C'est ce que je veux dire. Il y en a aussi un Amalek.
Soit les Palestiniens ou l'autre. Mais on est quand même dans un processus depuis 1948 de retour. Et on sait très bien qu'il n'y aura pas de troisième ou de quatrième exil.
Qui t'a dit?
Et vous avez ce que j'ai entendu de certains rabbins.
Mais c'est vrai en plus.
C'est vrai. Et j'arrive pas à définir la situation aujourd'hui par rapport justement à la Torah.
Je vais te dire. Il est évident que pour nous qui sommes croyants, un événement aussi important que le retour des Juifs au bout de 2000 ans et à travers toutes ces difficultés, c'est la providence qui, l'Ashgaha, qui agit. Et l'Ashgaha, elle ne joue pas au bide. Donc, c'est irréversible. Mais à quel prix? C'est ça le problème. Et le prix qu'on est en train de payer est un prix énorme. Je ne sais pas si vous en êtes compte. Un juif, c'est un olam entier. Même pieux. C'est précieux. Eh bien, à quel prix? Alors, on est en train de réagir comme des ingrats vis-à-vis de ce que Dieu fait pour nous. En se disant, ah ben, il n'a qu'à travailler. Nous, on se croise les bras et on laisse les ennemis d'Israël faire ce qu'ils veulent. C'est ça qui se passe. Enfin, qui risque de se passer. Alors, tu as raison, c'est irréversible. Il n'y aura pas de quatrième exil. Mais à quel prix?
Pour qui le prix? Pour ceux qui sont là ou ceux qui sont dehors?
Tous. Un juif, c'est un juif. Je vais vous raconter ce que je viens de dire. Un juif, c'est un juif. Vous ne vous trompez pas. Hein? jusqu'à ce qu'un juif soit renégat, c'est un juif. Laban, avant qu'il ait mal tourné, c'était le beau-père de Jacob, c'était le beau-père bien-aimé, son oncle, le frère de sa mère. Okay. Et puis quand Jacob a ouvert les yeux, il s'est rendu compte que ce Laban n'était pas si blanc que ça. Okay. Vous avez compris? Vous savez qu'elle veut dire Laban. Et alors méfiez-vous. C'est-à-dire, et moi je crois que il faut toujours espérer que les juifs, même pieux, finissent par faire tchoua, c'est pas une blague, mais ça me paraît très difficile. Et c'est pourquoi il faut être très vigilant. Alors je vais te répondre aussi du Amalek intérieur. C'est pas une façon de parler. Les kabbalistes ont établi que la valeur numérique de Amalek, vous allez la calculer. Aïn, vous savez combien? Parlez fort. C'est-à-dire 70, ma. Même 40. Ça fait
30.
Donc, la main, 30. Ça fait
30.
Et coup,
100.
Ça fait 200. Et faites la grammaire de Safek et doute. Ça fait 200. Alors, ça veut dire que Amalek, c'est le Safek à l'extérieur, et le Safek, c'est le Amalek à l'intérieur. C'est-à-dire, quand Israël doute de lui, Amalek apparaît. Et c'est clair. Alors il y a un Amalek intérieur qui est la cause du Amalek extérieur. Et réciproquement. Le Amalek extérieur arrive à faire douter Israël de son identité. Alors, chaque fois qu'Israël doute de lui, Amalek intervient. Je vais vous donner, donnez-moi un chumash. Non, j'ai besoin du livre de Shmos. Tiens, t'en as pas besoin? Tiens, Shmot. Non, ça va. C'est qu'un Shmot. Ah, c'est un tonnerre. Je vais vous donner le verset qui dit ça. Une minute. Vous allez prendre dans Shmot, c'est au chapitre 17, chapitre 17, verset 7. Alors, lis ce qu'il y a au chapitre 17, verset 7 dans Shmot.
Vaïkra Shem Makom Massa,
Omriba. Traduit, Omriba.
Donc, il appela cet endroit.
Parle plus fort.
Il appela cet endroit.
Massa.
Meriba.
Non, Massa.
Massa. Amriba.
Massa Umriba.
Massa Umriba.
Ça veut dire Massa, c'est une querelle. Meriba aussi, c'est une querelle.
Al-Riv ben Israël.
Traduit.
Au sujet du conflit entre Israël.
Et au sujet de la querelle des enfants d'Israël.
Ve'anna Sotam et Hachem.
Et parce
sur
que.
Sur le miracle d'Akadosh Baruch Hu.
Parle plus fort.
Sur le net d'Akadosh Baruch Hu.
Non. Nasotam. Le fait qu'ils ont mis Dieu à l'épreuve. Nisayon. C'est pas Nes. Les mots en disant.
En disant. Y a-t-il un Dieu?
Non. Dis en hébreu. Ayesh.
Ayesh Hashem. Hashem est-il?
Lis l'hébreu d'abord jusqu'à la fin.
Ayesh Hashem kirbenu im ayin.
Voilà. Comment tu traduis?
Est-ce qu'Hashem est?
Oui. Est-ce qu'Hashem est bikirbenu?
Entre nous?
Non.
Au milieu de nous?
Au milieu de nous. Im ayin ou?
Ou qu'il n'y ait pas?
Ou qu'il n'y ait pas. Alors il faudrait qu'il y ait im.
Imlo?
Non. Ayesh, Imlo. Donc, c'est pas un verset simple. Ayesh, Hashem, Bekirbenu, Imaïn. Il faudrait le traduire. Est-ce que Hashem, au milieu de nous, existe ou est néant? Alors, c'est le doute. Vous voyez? Est-ce que Dieu existe ou pas? Alors, vous voyez, il y a eu une épreuve, il n'y avait pas d'eau. Le peuple a mis Dieu à l'épreuve. Et alors, en disant quoi? Est-ce que Dieu s'occupe de nous ou pas? C'est clair? Vous voyez le doute. Verset suivant.
Il va y avoir Amalek.
Voilà, ça suffit. Traduit.
Et vers Amalek.
Et Amalek survient. Vous voyez, dès qu'il y a doute, Amalek apparaît. C'est clair? Alors, c'est pour répondre. Bien. Quelle heure est-il? Attendez, et dans l'ordre, c'est quoi?
Je suis dans le tort. Ah. Tout à l'heure, vous aviez parlé de.
Il a dit qu'il est en tort.
Vous avez parlé de la prédiction de Dieu à Abraham sur l'exil de son peuple. Et pourquoi, justement, j'ai pas compris.
Mais je t'ai dit qu'on allait étudier.
Pourquoi Dieu a prédit à Abraham l'exil de son peuple?
Le chapitre 15. Dans le chapitre 15, au verset 7. Je vous ai dit, chaque fois que vous traduisez les mots qui vont ensemble, je perds du temps à répéter.
Il lui a dit.
C'est Dieu qui parle à Abraham.
Il lui dit je suis ton Dieu.
Non, je suis Hachem.
Hachem.
Oui. Hachem Otsetira.
Hachem Otsetira, qui t'a fait sortir des Méoprasdim. La tête Lecha et Haaretz, Azot. Et qui t'a.
Non, non, traduit.
Pour te donner cette terre en héritage. L'Erishta.
Je suis Hachem qui t'ai fait sortir d'Ur Kasdim pour te donner cette terre en héritage. C'est clair? Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Verset suivant. Vayomar.
Vayomar Adonai Elohim. Et Abraham dit à Hachem.
Oui.
Bema et
Bama.
Bama. Bama et Da. Comment
je saurais-je?
C'est le Gibam. Bama et Da. En quoi saurais-je?
En quoi saurais-je? Qui est Rachena?
Que
ça m'appartient, que c'est mon héritage.
Traduit exactement. C'est qui est Rachena?
Rachena.
Que.
Que j'hériterai.
C'est lui qui parle.
Que j'hériterai.
Que j'en
hériterai.
Voilà, alors Dieu dit à Abraham, je t'ai fait sortir d'Ur-Kasdim pour te donner cette terre en héritage. Qu'est-ce qu'Abraham dit à Dieu? En quoi saurais-je que j'en hériterai? Alors il demande un signe. C'est clair? Comprenez bien ce qui se passe. Si on identifie les personnages du récit, Dieu dit à Abraham, cette terre c'est pour toi. Et Abraham qui lui répond, tu es sûr? Vous voyez ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a une perplexité d'Abraham. Je ne dirais pas un doute. Ça nous en va tout à l'heure, une perplexité d'Abraham. Alors le Talmud va essayer d'expliquer le problème. Okay. Et tout se passe comme si Abraham demande un signe à Dieu. C'est un manque de foi absolu. Est-ce que c'est clair? Top. Alors on va lire encore un verset et je reviendrai sur le sujet. Alors prends plus loin, au verset 12.
Vaï à Shemesh.
Au verset. Non, 13, pardon.
Vaïomer le Avram.
Traduit.
Et il dit à Avram.
Oui.
Yadoa Tera.
Teda. Yadoa Teda.
Teda, Yadoa Teda.
Traduit.
Yadoa. Il saura.
Non, Yadoa Teda. Savoir, tu sauras.
Savoir, tu sauras que je suis étranger.
Non.
Parce que.
Non. Que, qui, guerre, étranger, il sera. Zaracha.
Ta postérité.
Ça veut dire que savoir, tu sauras que ta postérité sera étrangère. Ber et Lolaem.
Sur une terre,
Lolaem,
qui n'est pas la leur.
Alors voilà, vous rapprochez les deux versets. Le Talmud a mis en évidence qu'il y a un mot le même dans les deux versets. Abraham demande Bamne Eda, en quoi saurais-je? Et Dieu lui répond après une vision, Yadoa Teda, tu sauras que ta postérité sera étrangère. Vous savez bien? Alors on se demande quel rapport. Abraham demande en quoi un signe pour savoir, être sûr qu'il héritera de cette terre. Et Dieu lui répond comme signe, le signe que tu hériteras de cette terre, c'est que ta postérité sera en exil. Ça ne marche pas. J'ai compris? Alors voilà l'explication dans le Maharal, mais vous aurez un cours exprès là-dessus en détail. Au fond, Abraham ne doute pas que Dieu peut donner cette terre à qui il la promet. Il ne sait pas s'il a, lui, un mérite suffisant. C'est clair? Encore une fois, il ne doute pas que Dieu peut lui donner, peut accomplir sa promesse. C'est pas ça sur quoi il est perplexe. Mais hériter, ça veut dire éternellement. Si ça dépendait que de lui, il peut être sûr de lui à la limite, mais il n'est pas sûr de sa descendance. Dans Yerusha, Irachena, vous voyez, c'est cette notion de la permanence de l'héritage. Alors, je vous schématise un peu, on le verra plus en détail, mais l'idée est claire. Abraham demande un signe qui peut le rassurer sur le mérite de sa descendance à avoir cette terre. Et le paradoxe, c'est que Dieu lui dit le signe, ben sache que ta descendance sera en exil. Alors, je vais vous donner la réponse à cette question qui n'est pas simple. Okay. Et par là, tu apprendras la réponse à ta question. Et voilà ceci. Si ce doute que tu as prend ta descendance, alors elle ira en exil. C'est ça le signe que ça le concerne bien, cette terre. Je vais essayer de vous faire comprendre, vous allez me dire si c'est suffisamment clair pour vous. Bien. Tout le monde sait que les Juifs croient que leur terre, c'est cette terre. Et pourtant, ils habitent ailleurs. Qu'est-ce que ça dévoile? C'est qu'ils ne sont pas sûrs. Alors, s'ils ne sont pas sûrs, ils auront une épreuve d'habiter ailleurs, et il n'y a que ceux qui seront sûrs, qui ne sont chez eux qu'ici, qui reviendront. Et c'est ce qui se passe dans l'histoire. Là, je vous donne en résumé la réponse du frère du Maharal, le Rabbi Chaim ben Betzalel. Il dit ceci, une des raisons de l'exil, c'est pour mettre en évidence qui croit que c'est sa terre ici. Celui qui croit que c'est sa terre viendra, celui qui croit pas restera là-bas. C'est-à-dire l'objectif de l'exil, c'est de faire le verrou, la sélection d'identité. Celui qui est convaincu qu'il ne peut pas être chez lui ailleurs finira par venir ici. Vous avez compris la réponse ? Okay. Alors je reprends au niveau du texte. Abraham demande un signe. En quoi je peux être sûr que j'en hériterai de cette terre ? Alors Dieu lui répond, le signe, c'est que ta descendance sera en exil. Si elle a le même doute que toi, elle ira ailleurs. Et alors finalement, le fait qu'elle sache qu'elle est en exil ailleurs, c'est le signe que sa terre, c'est vraiment ici. Okay. Vous avez bien compris le problème. Mais c'est très important de comprendre ça. En fin de compte, qu'est-ce qui revient ici ? C'est celui qui a fini par être convaincu qu'il n'est pas chez lui ailleurs. Je parle des Juifs. Okay. C'est encore un mystère. C'est le seul peuple qui préfère habiter ailleurs que chez lui, pendant des siècles, des millénaires. Et quand il est bien convaincu que ce n'est pas possible, alors il revient. Mais c'est ça ce qui se passe. On revient. Ça veut dire qu'au niveau d'Abraham, ce doute, ce n'est pas un doute. Ce n'est pas une faute, c'est de l'humilité. Il demande est-ce que je mérite, okay. Au niveau d'Abraham, c'est une vertu. Mais sa descendance, lorsque sa descendance a ce doute, c'est une faute. Alors ce doute est puni par l'exil. Déjà ? Et je crois que c'est la réalité qui vous fera comprendre ça. C'est une réalité impossible à expliquer autrement. Les Juifs doutent que cette terre est la leur. C'est pourquoi ils ne sont pas là. Et même quand ils reviennent ici, il y en a une partie qui doute que c'est peut-être Ishmaël. Vous avez compris à quel point c'est massif comme relation. Alors, je résume donc cette explication. Prendre le titre du livre du frère du Maharal, c'est le Sefer HaChaim. Il donne 14 explications d'exil. Une d'entre elles se base sur ce texte. Je dis bien 14, parce que c'est pas simple comme problème. Tellement mystérieux, ce peuple qui est toujours ailleurs que chez lui. Alors il dit, voilà, c'est une mise à l'épreuve. Tu te crois chez toi en France, essaye. Le jour où tu seras convaincu que ce n'est pas possible, tu reviendras. Et en France, ou en Corse, là où vous voudrez, à Varsovie. Bien. Et les Juifs sont allés partout essayer de savoir où c'est chez eux. Et en fin de compte, il y a ceux qui sont convaincus que chez eux, c'est chez eux qui reviennent. Vous avez bien compris le problème ? Toutes les autres raisons qu'on se donne, c'est secondaire. C'est pas secondaire, c'est second. La vraie raison, c'est où est-ce que je suis chez moi ? Et alors après, les gens essayent de raisonner au-delà de la raison, ils rationalisent pour essayer de se donner des motifs. Pourquoi chez lui ? La vraie raison, c'est parce qu'il est rentré chez lui. Okay ? Mais je vous donne un exemple. Si vous faites une enquête dans une ville israélienne, disons, allez à Ashdod, ça parle français. Okay ? Faites cette enquête-là. Vous allez rencontrer les gens dans la rue. Vous allez leur dire pourquoi tu es ici et pas à Sarcelles ou à Strasbourg. Alors chacun va vous raconter un roman. Un, il va vous dire pour pouvoir être religieux, comme si on ne peut pas être religieux ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant 2000 ans ? Et un autre va vous dire c'est pour pouvoir être socialiste. On est vraiment socialiste ici, comme si on ne peut pas être socialiste ailleurs. Entre parenthèses, je crois qu'on ne peut pas être religieux ailleurs, qu'on ne peut pas être socialiste ailleurs, mais c'est un autre problème. Ce n'est pas la vraie raison. Ils sont là parce que leurs pieds les amenaient ici. Et après, c'est ça, et pourquoi je suis venu ? C'est clair ? Donc, de la même manière, vous faites une enquête dans une ville juive en France, disons Sarcelles. Vous connaissez ? Bon. C'est pas loin de Trifouilly et Svar Kacher. Alors, vous allez à Sarcelles. Et puis, vous demandez pourquoi tu es là et pas à Ashdod ? Alors, chacun va vous raconter un roman. Il va vous faire un programme du judaïsme français. La vraie raison, c'est pas celle-là. La vraie raison, c'est qu'il est là et pas là. Tout simplement. La vraie raison, c'est qu'il est encore occupé à se demander où est-ce que je suis chez moi. Et ça fait 2000 ans que ça dure. C'est clair. Hein ? Alors, voilà le problème. J'ai vu. Voilà le problème. Abraham pose un problème important que l'histoire va finalement dévoiler. Hein ? C'est un peuple qui a un doute. Est-ce que je suis chez moi ailleurs ou chez moi ? Ça a l'air énorme, ce que je vous dis là. Okay ? Il y a une dimension cosmopolite, universelle chez les Juifs, qu'on trouve nulle part ailleurs. D'une certaine manière, ils sont convaincus de deux choses différentes. Le monde entier leur appartient, grand A, grand B, Eretz Israël, c'est un. C'est un problème mystérieux. Moi, je crois que les deux choses sont vraies. Le monde entier est promis à Israël, mais à travers les goïms. Et puis Eretz Israël, et promis aux Goïm, mais à travers Israël. Et réfléchissez bien ça, on aura. Vous n'avez pas remarqué que les Goïm, tous, réclament Jérusalem comme leur capitale. Vous n'avez pas remarqué ça, okay. L'ONU est prêt à reconnaître l'indépendance d'Israël à une condition. C'est Jérusalem, ça va être la capitale d'Israël. Parce que Jérusalem, c'est la capitale du monde. Le monde entier se reconnaît à Jérusalem. Inversement, les Juifs sont persuadés que Jérusalem, c'est leur capitale, mais ils préfèrent trifouiller les oies. Vous avez compris ça? Et trifouiller les oies, ça se trouve dans le vaste monde. Depuis le pôle Nord jusqu'au pôle Sud, et en passant par les autres pôles. Bon, vous avez compris le problème. Alors, la vraie question, en fin de compte, c'est pas tellement est-ce que la diaspora a raison d'être là où elle est, est-ce qu'Israël a raison d'être là où il est, c'est dans quel temps nous vivons. Si nous vivons le temps de la dispersion, c'est Joseph le modèle. Si nous vivons le temps du retour, c'est Moïse le prophète. C'est ça la vraie raison. Yosef était tzaddique en son temps. Mais en son temps, c'est Moïse qui dit la vérité. Alors Joseph, c'est celui qui inaugure la diaspora. Joseph, Moïse, c'est celui qui y met fin et déclenche le retour. Alors la vraie question est, et après on se demandera qu'est-ce qu'on fait chez les Goïm. J'en ai parlé un peu tout à l'heure.